Bonjour Daniel, c'est Marc de Menton. Dis-moi, j'ai l'impression qu'Arafat, il a pas supporté la réélection de George Bush. Eh oui, c'est dur.
Allez, petit Français, petite Française, ne soyez pas jaloux des Américains. Nous aussi, on va l'avoir, notre Bush, ou son fils spirituel, le petit Sarko. Allez, je vous embrasse et bon courage. C'était Pierre de Vitry dans le 9-4.
Salut Daniel, c'est Léon Delila. Bon, bah dis donc, parmi tous les cons qui t'appellent, il y a quelques perles, hein. Comme celui qui dit 300 millions d'otages aux États-Unis. Hein, mais les gros cons sont pas toujours du côté où on pense, hein. Enfin, quoi que toi, tu t'es bien chargé de leur bourrer le crâne avec tes complices du monde diplomatique. Allez, ciao. Tu dois être content. Enfin, vu la gueule que tu dois faire avec Bush élu, ça me fait plaisir. Allez, ciao.
Alors voilà, je voudrais vous dire que je suis content d'être français. Parce que nous, les Français, ben, nous avons la meilleure cuisine du monde. Nous avons les meilleures écoles du monde. Nous avons la plus belle avenue du monde. Et puis, nous avons aussi un esprit critique très éclairé, ce qui est normal, vu l'objectivité des informations que nous recevons grâce à notre télévision qui n'est pas du tout orientée. Nous avons aussi la meilleure médecine du monde. Bon, d'accord. Lorsque les grands de ce monde sont malades, ils vont se faire soigner aux États-Unis. Mais la raison, elle est très simple. Parce que nous sommes d'une telle modestie que nous le disons donc à personne. C'est-à-dire que personne ne sait, mis à part nous. Quand je pense qu'il y a des gens qui vivent aux États-Unis, bah écoutez, avouez que nous avons vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Voilà. Au revoir.
Bonjour Daniel. Ben, c'est super ton reportage là sur Montpellier. Moi, je suis touché parce que je connais ce quartier, j'habite un petit village au nord de Montpellier. Et puis, j'ai une famille de copains qui habitaient dans la Grande Tour, là, que tu parlais. Et donc, j'ai passé une paire d'années à aller les voir, mais ça remonte déjà à 15 ans. Et voilà, donc je voulais témoigner. Déjà, moi, je me rappelle d'un fait qui m'avait marqué à cette époque, c'était que quand je prenais l'ascenseur pour monter au 17e étage, ben, j'avais un peu peur parce que c'était déjà, je me demandais si on allait arriver en haut, quoi. Voilà, c'était pour dire que ça, c'était il y a 15 ans, donc je sais comment ça se passe là-bas et ça a forcément pas évolué, on peut imaginer, quoi. C'était Rock de Montpellier. Salut.
J'appelle parce que je viens d'écouter l'émission, là, aujourd'hui, sur ce monsieur qui est mort asphyxié dans son appartement dans une cité à Montpellier. Ben, en plein milieu du reportage, il y a eu un flash spécial de la rédaction, c'est comme ça que tu l'as annoncé. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que Arafat était peut-être mort. Alors, on ne savait pas finalement s'il était mort ou s'il n'était pas mort. Et donc, la rédaction a gardé l'antenne en fait pendant ton émission, peut-être pendant 5 minutes. Tout ça pour nous dire quoi? Ben, pour nous dire qu'il était peut-être mort. Et que finalement, résultat des courses, est-ce qu'il y a de l'info? Non, pour moi, il n'y a pas d'info là-dedans.
Ouais, salut à tous. Ouais, ça fait du bien d'entendre un reportage où des gens qui se battent sur le terrain arrivent à obtenir quelque chose. Pour faire le lien avec le supposé SDF qui s'est plaint qu'on fasse beaucoup de publicité par rapport aux ours qui meurent ou qu'on abat, et on en fait beaucoup moins quand c'est un SDF qui meurt. Malheureusement, mon pote, les SDF sont pas en voie de disparition, et si vous voulez vous en convaincre et donner suite au reportage que vous venez d'entendre là, en vous disant, bah, tiens, ça serait bien qu'on soit un peu sur le terrain et qu'on serve à quelque chose, bah, tous les lundis, hein, ça marche, hein, 19h devant la gare de Saint-Raph, on fait le tour des SDF. Hein. Rassurez-vous, on est environ à 80 maintenant, on en voit à peu près 80 tous les lundis. Donc vous voyez, ça diminue pas. Hein. Au mois d'août, ils étaient 5 ou 6. Bon, allez, gros bisous quand même, passez une belle nuit et pensez pas trop à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, ça arrivera bien assez vite ici. Ciao, viva, portez-vous bien.
Voilà les messages, quelques messages sur le répondeur de la base si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, on reste encore à Montpellier, on reste au Petit Bar. Contrairement à ce que ce nom suggère, c'est pas du tout ce que vous croyez, c'est pas un petit bistrot, non pas du tout, c'est un quartier fameux de Montpellier où, à la suite de la mort d'un résident de cette cité, le 13 juin dernier, bien les habitants se sont mobilisés, ils se sont battus, ils ont fini par obtenir, chose incroyable, un projet de 80 millions d'euros pour la réhabilitation de leur quartier. Alors effectivement, comme disait à l'instant Eric, ça fait du bien d'entendre des choses pareilles. Et c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va entendre à nouveau aujourd'hui en allant dans un autre quartier. On va passer du petit bar à La Paillade, un quartier fameux de Montpellier auparavant. D'autres messages sur le répondeur de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Il y a les annonces aujourd'hui, hein, pour les soirées, les assos qui font des petites des réunions petites ou grandes, très bien, mais soyez bref, hein, pour ce genre d'annonce, parce que hélas on n'a pas 3 heures d'antenne chaque jour. 01 56 40 37 37.
Voilà, maintenant que Georges Buisson s'est fait réélire, je propose une chose, c'est que la France est une terre d'accueil, on propose à Michael Moore de rentrer chez nous en tant que réfugié politique, et puis peut-être même la même chose pour Moby et puis pour Le Boss, pour Bruce Springsteen. En attendant que l'autre guignol, maintenant, fasse un gros conflit avec, je sais pas moi, l'Iran ou la Corée du Nord, tiens, tant qu'on y est. Allez, salut à tous.
Couvrons les démocraties occidentales avec une dose de peur des autres, aux USA, Al-Qaïda, en URSS, Tchétchénie, aussi chez nous, les banlieues, on arrive à faire voter les gens comme on veut. Seule lueur d'espoir, la démocratie espagnole, et son dernier vote qui montre les limites de la manipulation. Michel de Manosque.
Je vous souhaite plein de bonnes surprises pendant ces 4 prochaines années. Car souvenez-vous ce qu'il disait Bedos, l'avantage avec la droite, c'est qu'on ne peut pas être déçu. Allez, salut, Christophe de Nanterre.
Bonjour Daniel Mermel et les auditeurs de là-bas si j'y suis. C'est Marion à l'appareil, j'ai 13 ans et j'habite à Angoulême. Et j'appelle pour dire que je trouve déplorable, déjà premièrement, de s'attaquer à une espèce protégée et qui, sans cannelle, la seule ours femelle des Pyrénées, est voué à disparaître. Deuxièmement, c'est d'autant plus honteux car les écologistes et autres personnes s'intéressant aux animaux reprenaient espoir grâce à la venue d'un ourson mis au monde par Canel et se retrouvant seul à présent. Merci, au revoir.
Ici Robert de Cormontreuil dans la Marne. Alors, sur le répondeur de là-bas, si j'y suis ce soir, un auditeur fort sympathique d'ailleurs, s'offusquer du fait que l'on fasse plus de randam pour une ours abattue que pour un SDF retrouvé mort. Moi, il me semble que ce battage me semble normal et logique pour une raison simple, à savoir que, contrairement à certaines espèces animales, les SDF ne sont pas, que je sache, ni une espèce protégée, ni une espèce en voie de disparition. Je me demande même si ce n'est pas le contraire et si ça ne va pas aller en embellissant. Ciao.
Encore 3 pages dans le quotidien Sud-Ouest sur la battue à l'ours en Vallée d'Aspe après celle d'hier pour nous dire qu'on applique la devise du Béarn. On avance sans bouger. On va protéger l'ourson. C'est peut-être aussi la devise de nos gouvernants qui, sur le sujet de l'ours, avaient mis en place des zones de protection, zones supprimées par la suite sous la pression de quelques lobbies, vrais faux, bergers, chasseurs. C'est vrai aussi que c'est consternant de parler plus de la mort d'une ours que de celle d'un SDF. Mais là encore, la devise. Je tiens à votre disposition d'autres exemples de l'application de cette devise. On avance sans bouger. Pierre de Pau.
Bonjour, une info locale de Paris 14e pour rappeler à tous les habitants du sud de Paris que se tient ce week-end et à compter de ce jeudi 4 novembre, donc jusqu'au dimanche 7, le premier forum social local du 14e. Le tout est organisé par un collectif du 14e qui regroupe différentes associations et qui est soutenu par quelques partis politiques. Pour toutes les informations, le site internet http://fslparis14.com. e14e.free.fr. Merci, c'était Muriel pour le collectif FSL.
Ici Pierre, d'Attaque Chablais, région autour d'Évian. Avec le collectif PIF, priorité immédiate aux ferroviaires. Nous avons l'intention de lutter contre Hercule, nom de code du projet de Danone, propriétaire des eaux minérales d'Évian. Vous avez compris, c'est PIF contre Hercule. Danone veut doubler, à terme, le transport des bouteilles par la route, alors qu'une voie ferrée électrifiée peut facilement absorber l'augmentation de la production d'eau minérale. C'est pourquoi on organise ce vendredi 5 novembre, au Palais des Congrès d'Évian, de 18h à 21h, une table ronde avec des responsables nationaux de Danone, de la SNCF, de la CGT Cheminots et d'Attaque. Merci.
Salut, c'est Sarah de Châteauroux dans le 36. On baisse pas les bras contre le nucléaire en France. Nous organisons une soirée concert d'information contre le nouvel EPR en France, nouveau réacteur nucléaire, à Châteauroux, ce vendredi 5 novembre à partir de 20h30, avec la chorale de la Star Attack et le groupe Marginal Concept. Donc rendez-vous à la salle Alexandre Dumas, au foyer des jeunes travailleurs, quartier Saint-Jean à Châteauroux. Donc on a juste les frais de participation de 3€ et une buvette bio ou commerce équitable. Donc voilà, venez nombreux à Châteauroux vendredi soir. Au revoir.
Bonjour, c'est Eugène Lampion au téléphone. Je fais partie du collectif Interdisons, qui est basé en Gironde autour de la commune d'Izon. Et le nom du collectif, avec son jeu de mots un peu pourri, répond directement au jeu de mots très pourri de la Lyonnaise des Eaux, qui doit installer une usine de traitement de boue par pyrolyse, d'incinération, dont personne ne connaît les tenants, les aboutissants. Samedi 6 novembre, c'est à Bordeaux, donc tous ceux qui veulent venir nous rejoindre, tous ceux qui veulent avoir de l'information, eh ben n'hésitez pas, vous venez, on sera à 10h place Stalingrad à Bordeaux, pour un défilé qui sera en vélo et en roller, les gens qui seront venus à pied ou en bus, donc là le rassemblement se fera à 11h devant la mairie, et nous aurons bien sûr force tract et force document pour expliquer notre avis.
La Maison des Métallos à Paris reçoit ce 5, 6 et 7 novembre des éditeurs indépendants du Gros Capital. Voilà, première différence avec le gros salon du livre, l'entrée est gratuite, comme dans une librairie. Venez donc retrouver des éditeurs que vous connaissez déjà ou découvrir d'autres qui ne sont que dans de très bonnes librairies. Merci de venir nous retrouver. On vous attend avec déjà le sourire. L'adresse, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, à Paris, dans le 11e arrondissement.
C'est tout sale. Il y a les poubelles brûlées de partout. Toujours il y a des bagarres, il y a des bastons.
Parle bien, tu
vas parfois au centre-ville de Montpellier?
Oui. Ouais. À Polygone.
Et c'est bien? Polygone, c'est le centre commercial, hein.
Il y a beaucoup de filles là-bas, c'est bien.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Olivia Gesbert, les habitants du Petit Bar.
Flight number 2, arriving from New York.
Au Petit Bar, je ne saurais même pas y aller. Au petit bar, je saurais même pas y aller.
Quand j'ai appelé le téléphone de la maison, je voyais que ça sonnait pas et ça sonnait occupé. En fait, clairement, les câbles étaient brûlés et ben voilà. Mais franchement, le 13 juin à 18h et quelques, ça oubliera jamais. C'est un truc, une date en fait, c'est trop marqué.
Mais ce quartier, il a l'avantage, je vais te le dire politiquement. Il est considéré comme un coupe-gorge, tu vois, c'est le lieu d'un peu de tous les fantasmes, tu vois, le petit bar, machin, ceci, cela. C'est des quartiers où un facteur, il dure 3 mois. On lui dit, tu rentres à la poste, tu viens faire tes classes ici. Si tu tiens le choc avec ces monstres, c'est bon. Donc, tu vois, même le personnel public, il revient à reculons ici. C'est à eux. Et voilà. Ouais, alhamdoulilah, France Inter, tu veux parler, Mohamed? Non,
c'est bien Montpellier.
On habite à Montpellier, en bord de Méditerranée. On est tous un peu marseillais et un peu avérolés. On habite à Montpellier et on est des privilégiés. C'est sûr, on aime le tchatché, on soutient José Bové.
Ouais, mais y'a merde qui nous fait payer.
Y'a pas de place pour se garer, oui c'est à Montpellier. On roule à tort tous les côtés, oui c'est à Montpellier. Les impôts surdimensionnés, oui c'est à Montpellier. La culture en face, oui c'est à Montpellier. À Montpellier comme à Marseille, il y a des immigrés. Et c'est dans leur quartier qu'il fait bon se promener. Il y a tati, des kebabs, des loukoums comme à Barbès. Et c'est un petit Paris qui sent la joie et la merguez. On habite à Montpellier, en bord de Méditerranée. On est tous un peu marseillais et un peu adhérodés. On habite à Montpellier et on est des privilégiés. C'est sûr, on aime tchatché et on soutient José Bové.
En fait, le très fameux juin, c'est quelque chose qu'on a mal vécu. Et j'étais pas dans l'immeuble le jour qui s'est passé. En fait, j'avais fait la fête un petit peu. Je suis revenu le matin. Et quand je suis arrivé, j'ai appelé un copain. D'habitude, on a l'habitude d'y aller prendre un café l'après-midi, comme ça. Après, j'ai appelé. Il me dit, ouais, il y a le feu chez toi, à la maison. Je dis, c'est pas possible qu'il y a feu chez moi. Je l'ai raccroché de suite. J'ai appelé le téléphone de la maison. Et quand j'ai appelé le téléphone de la maison, je voyais que ça sonnait pas et ça sonnait occupé. En fait, clairement, les câbles étaient brûlés. Et ben, voilà. Mais franchement, le 13 juin, à 18h et quelques, ça oubliera jamais. C'est un truc, une date en fait, c'est trop marqué.
Vous vous appelez comment, jeune homme?
J'espère qu'il ne sortira pas mon nom, parce que sinon...
Votre prénom?
La Seine.
le 13 juin dernier à La Paillade, dans ce quartier de Montpellier, la mort en forme de goutte d'eau qui fait déborder la vase, oui, où s'enlisent, où pourrissent les dangereux. La population dangereuse de Montpellier, mais ça pourrait être ailleurs autour de Montpellier, ailleurs dans des villes de France où on trouve des quartiers semblables à celui de La Paillade. Ce jour-là est mort Houssine El-Ouamari, 31 ans, asphyxié, en tentant de sauver sa nièce. Pourquoi ? Parce que dans la cage d'escalier de son immeuble, il y a eu un incendie, rue Troll, et voilà, il est mort asphyxié dans cet incendie. Et ça a donné lieu à une colère, une rage des habitants qui se sont rassemblés le 14 juin, le 19 juin. 800 personnes ont réussi à se mobiliser, mais ni le préfet, ni le maire, ne répondent et n'aident les 18 familles de cet immeuble qui se trouve à la rue. Alors les familles occupent du 20 juin au 26 juillet dernier un gymnase pour convaincre les autorités à les reloger. Les familles sont soutenues par un certain nombre d'associations comme la CIMAD, comme le MIB, comme le DAL. Et toujours rien, on attend des soutiens divers, une lutte, ce qu'on appelle tout simplement une lutte. Et puis le 28 juin, au conseil municipal à Montpellier, parmi les 47 points abordés, toujours rien, il faut attendre encore. Le 22 juillet, enfin, 40 jours après, le secrétaire d'État au logement, Marc-Philippe Daubresse, annonce un plan de rénovation urbaine de 80 millions. Voilà, il indique que l'État participe aux travaux d'urgence et à 30% du plan de réhabilitation ficelé par le maire, les travaux bénéficieront des concours financiers, d'un préfinancement, etc. Enfin, c'est une affaire qui semble, il faut la suivre maintenant, bien évidemment, quand même en bonne voie, et il aura fallu cette lutte, et il aura fallu ce décès, il aura fallu cette mort pour que on prenne conscience et qu'on fasse quelque chose. Le on en question, c'est très clair, c'est très net, ce sont les pouvoirs publics. Alors on va retrouver les protagonistes de cette affaire aujourd'hui sur laquelle nous revenons, et puis on se déplacera dans Montpellier pour voir que si cette affaire est, espérons-le, en voie de règlement, mais encore faut-il la suivre, et c'est pourquoi les habitants de La Paillade essayent de se constituer en collectif, il faudra la suivre, mais d'autres affaires comme ça peuvent éclater en France, dans ce qu'on appelle les quartiers en difficulté, ces quartiers sensibles, peuplés de ces populations dangereuses qui sont évidemment avant tout des populations en danger.
Pour dire monsieur. Que chez ces gens-là, monsieur. On ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Monsieur. Et les bandits. Ah oui.
Il semble que ça a fait un tremblement de terre dans Montpellier. On ne s'y attendait pas, on a été pris surpris par l'écho que ça a eu. Ça a fait la une des journaux locaux plusieurs fois par semaine. C'est perçu à Montpellier comme étant la première fois où le système, que d'aucuns appellent le système fraîche, mais bon, c'est pas seulement le système fraîche, c'est un système où les intérêts immobiliers, politiques, économiques, électoraux, etc. sont très imbriqués et qui fonctionnent un petit peu de manière clientéliste, et certains disent mafieuse, a été battu, a reculé, grâce à une mobilisation de gens. Il y a aujourd'hui des batailles qui ont commencé dans des tours, dont la tour de Catalogne, et les gens disent que ce qui s'est passé au Petit Bar leur a inspiré le fait qu'ils n'avaient plus à accepter des conditions de vie pareilles dans une ville qui est une ville riche.
Une ville riche, ben oui, Montpellier, une ville sympathique, une belle vitrine. On a envie d'habiter Montpellier. On sait que cette ville a beaucoup de succès. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais derrière la belle vitrine, derrière le beau décor, eh bien, il y a ces quartiers difficiles. Ça ne veut pas dire du tout que tous les quartiers construits dans les années 50-60 ce sont tous systématiquement des quartiers en difficulté où des populations souffrent de cette façon. Mais il y a certaines gestions qui ont entraîné ces difficultés. Alors il y a les gestions et il y a aussi tout ce que l'on sait sur le chômage, l'exclusion, la communautarisation, l'apartheid social, la ghettoisation, l'apartheid urbain également. Enfin, tous ces phénomènes, on les connaît, on les oublie, on commence à essayer de débaucher des projets, des solutions, et puis on les abandonne, et puis ben c'est l'abandon. C'est l'abandon de ces populations, comme on dit. Alors, on fait un tour à nouveau au Petit Bar avec Abdennour qui est natif natal, peut-être pas du Petit Bar, mais qui a vécu 22 ans et qui nous le présente. Vous allez voir que il y a d'autres endroits en France qui ressemblent beaucoup au Petit Bar.
Je vais te la faire nostalgique. Comment ça s'appelle le blanc à Laurent Boyer, bien cousine. Tout ça là, c'était un champ. Il y avait des vignes, des vergers. Moi, j'ai connu où il y avait des raisins. Après, ça s'est laissé un peu aller. Puis, à la place, ils ont construit une école. Et il y a la mosquée qui est plus loin, là. Fait la mosquée. Le maire, avec l'élégance qu'il a, comme il souffre de beaucoup de modestie et tout ça, fait l'ancien maire, il a fait sur une usine de salaison qui s'occupait du lard et tout ça, de cochonnaille, quoi. Et il a mis une mosquée dessus. En disant, regardez, je leur fais une mosquée, mais quand même, on en rit, quoi. Les paillards et tout, on les mate. Ils ont pas leur mot à dire, c'est moi le boss. Bon. Alors, en fait, le quartier, c'est que des noms de plantes. Quand j'étais petit, je disais, tiens, c'est quoi un troll? Et en fait, regardez, là, derrière, c'est rue des Araucarias, alors, il y a Charles Péguy, un square Charles Péguy, et il y a François Villon. Alors, c'est marrant, François Villon, c'est un poète, c'est un ancien poète qui était voleur. Au Moyen-Âge, tu vois. Je sais pas si tu connais. Donc voilà, ça fait partie de ces petites taquineries que le maire affectionne à l'égard certains habitants, quoi.
Si tu veux, on peut faire le tour de la cité. Là, t'as une école qui était construite derrière. Ça veut dire un espace qui est interdit, en fait. Il n'y a pas de passage. Ici, vous avez la chaufferie et les HLM avec un mur assez haut, quand même, pour séparer derrière. Je sais pas ce que c'est que ce bâtiment-là, une école, et avec le petit terrain là, de foot et de basket. De l'autre côté, il y a un petit espace vert qui sépare, il y a le gymnase de l'autre côté, qui est là. Après, tu as une route, là-bas. Après, tu fais le tour, quand la route est finie, en bas, tu as la nouvelle cité HLM qui est de l'autre côté, pareil, avec un grillage assez haut. Parce que c'est marrant, quoi, ça communique pas avec l'extérieur, avec tout ce qui est entoure, en fait. Il y a que la route qui communique de l'autre côté. Mais c'est complètement séparé, c'est complètement isolé. Je pense que dans une politique urbaine ou une logique urbaine, c'est flagrant, quoi. Pourquoi cette séparation? Je sais pas. Enfin, je suis pas urbaniste, mais ça me choque.
Mais il y a des rencontres qui ne doivent pas exister. C'est avoir le genre humain, je sais pas, un peu crispé, quoi. Tu vois, un peu.
Alors, c'est vrai que apartheid, ségrégation, c'est peut-être des mots forts, des mots comme ghetto, il y a sans doute de l'abus à employer ces mots-là, mais quand on entend dire gestion communautaire des populations, le côté administratif de ce genre de terme n'est pas moins choquant. Ou des expressions très euphémisées comme quartier sensible, quartier en difficulté, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a une gêne profonde autour de ces habitats mais qui sont pas seulement quelque chose, des petits malheurs qu'il faudrait montrer du doigt et apporter des solutions. On sait très bien que c'est là des signes de ce qu'est notre pays, de ce qu'est notre société. ce que sont ces politiques successives qui séparent, qui divisent, qui de plus en plus acceptent l'idéologie inégalitaire. On s'habitue de plus en plus à ce genre de séparation et c'est d'autant plus courageux de la part des habitants, parce que c'est les habitants. Il y a les associations qui leur donnent un coup de main, c'est vrai, mais là, ça vient des habitants eux-mêmes, de leur vécu, de leurs expériences, de leur lutte, et aussi, évidemment, de ce drame. Alors, ils ont obtenu les résultats que j'ai évoqués, mais c'est pas tout. Maintenant, il faut essayer d'aller plus loin et au moins de se constituer en association, en collectif, en l'occurrence, capable de suivre les affaires, parce que les effets d'annonce, on connaît les effets d'annonce. Donc on s'en méfie. Voilà pourquoi autour de Merguez, ce jour-là, on se réunit pour créer un collectif.
Les merguez prennent feu. Là, on est dans le petit jardin de la salle des fêtes, en fait, ou de la salle où vous pouvez vous réunir après les événements de juin dernier. C'est ça, cet après-midi, réunion de toutes les familles. Voilà. Mais d'abord, c'est les merguez. Hein.
Bonjour tout le monde, salam alaykoum.
Oumeya, juste quelques mots, qu'est-ce que c'est ?
Là, c'est une assemblée générale des habitants du quartier et des gens qui se sont battus sur l'histoire du petit bas, qui vont constituer une sorte de conseil, une association. C'est un des moments de constitution du cadre d'auto-organisation des habitants.
Combien de familles à peu près qui vont être représentées dans ce collectif ?
On ne sait pas encore, ça va se décider dans les minutes qui suivent.
S'il vous plaît.
Donc, ce qu'on a dit, c'est que la réunion d'aujourd'hui, elle est faite pour plusieurs choses. La première chose, c'est pour que les gens ici choisissent des personnes qui vont coordonner le travail pour la concertation. C'est-à-dire que ça va être une discussion entre les habitants et les pouvoirs publics pour voir quelles sont les meilleures choses à faire, quelles sont les urgences et quelles sont les priorités aujourd'hui dans le quartier. Nous, notre position, c'est que le mouvement qu'il y a eu en juin-juillet, ça a été un mouvement qui a été porté par les habitants eux-mêmes. Les familles ont occupé le gymnase, les gens y sont allés manifester, etc., etc. Et ça montre que c'est quand tous les habitants, ils contrôlent leur devenir, que quelque chose peut changer. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est qu'on choisisse des habitants qui sont les interlocuteurs. La deuxième chose, à part la concertation, c'est le suivi des procédures judiciaires pour les charges, pour tous les dommages que les habitants ils ont eus, parce que maintenant il est établi que les conditions de logement sont extrêmement dégradées. Donc, Inch'Allah, j'espère qu'on pourra...
Vas-y. Attention, et celui-là qui rentre, il faut qu'il défende les jeunes de Petit Bar. Pourquoi ? Pour... On ne vive pas au milieu de la boubelle. Et peut-être, Inch'Allah, comme on dit en arabe, peut-être, ce moment-là, peut-être, va gagner quelque chose de bien. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ntawakkalu 'ala Allah.
Rachid.
T'habites dans le quartier ?
Ouais.
Non, bah arrêtez de rire, c'est pas... Le combat, c'est quoi l'objectif ?
Bah, un logement digne pour tous. Bah viens, approche-toi. C'est la copropriété la plus dégradée de France. Ça a été dit à la télé, partout, c'est écrit partout, mais personne bouge pour que ce soit plus la copropriété la plus dégradée de France. Donc peut-être c'est des mensonges. Aussi, il faut le dire, les jeunes du petit bar, contrairement à d'autres quartiers, ben chez nous, il n'y a personne qui travaille dans les transports publics, c'est-à-dire qui est chauffeur de bus. On a une personne qui est dans la police nationale, sinon on dirait que tous les métiers nous sont fermés, en fait. Le fait qu'on ait l'adresse petit bar, ben, moi, je vois personne du quartier qui travaille à la TAM, transport de bus, la compagnie là, de bus, tous les boulots publics. Déjà que le nom, il aide pas. Alors l'adresse, elle achève tout le monde. Là. Il y en a plein qui vous le diront.
C'est à ce point-là la mauvaise réputation du petit bar.
Ouais, c'est à ce point-là.
Vous avez ressenti pareil ou...
Younes. Non, ça c'est par rapport aux filles aussi. Aux filles, quand on parle du petit bar, quoi, directement, elles nous rejettent. Qu'on est des mauvais garçons, qu'on respecte personne et que voilà. C'est des préjugés, donc. C'est vrai que la plupart savent qu'il y a une majorité de maghrébins, d'immigrés dans ce quartier qui fait que. Qui nous rejettent, quoi. C'est malheureux. Franchement, il y a trop de laissés-aller ici. Ils se défoncent pas trop, quoi. Voilà, quoi.
Ils se défoncent pas aux joints ou au boulot?
Non, aux joints, au boulot. Faut être soudé. Faut monter une association, comme ils disent, mais bon, il y a personne. Voilà. Faut qu'il y ait Haja après. Moi, j'attends quoi? Franchement, si j'en ai l'association, oh, je vais foutre le bordel, madame, master. Tu sais, j'ai trop de bédos dans la teuté, là. Je peux plus parler, là. Je suis trop France Day, s'il te plaît.
Tu vas voir les gens quand on commence à décoller.
Mais non, je décolle pas, Croyant, moi j'étais là à l'époque, je suis un ancien, moi j'ai 24 ans, je suis parti 5 ans sur Paris, c'est pas pour rien. Ouais, je suis descendu parce qu'on a appuyé sur le bouton SOS, il faut redescendre. Eh ouais, je laisse pas faire.
Alerte rouge.
Eh ouais, je suis soudé, non. Moi.
Eh, ça va sauter la tour, ça
je
va sauter.
Place dans la... Je vais faire partie de l'association.
C'est bien, franchement, voilà. Si tu... J'espère que tu vas te battre pour tout le monde là.
Alors on a parlé de la gestion clientéliste, sinon mafieuse des populations de la municipalité de Montpellier. Pendant 25 ans, Georges Fraîche, maire de Montpellier, c'est vrai, a, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a plutôt privilégié, enfin du moins la municipalité, la privatisation des logements au détriment des logements sociaux. Et c'est vrai que quand on est dans cette association, quand on se balade au petit bar, dans ce quartier du petit bar, toute flèche est contre fraîche, on pourrait dire ça. Alors, eh bien, un autre son de cloche. On va essayer de voir un peu ce qu'on dit de ce côté-là. Et on rencontre donc Christian Bouillet, qui est maire adjoint à la sécurité à Montpellier.
Malheureusement, il y a eu un drame à l'origine de cette revendication que j'avais déjà, moi, lancée en 1998, quand j'étais élu pour la première fois conseiller général. Donc, c'est vrai aussi que les habitants du Petit Bar, bon, ont pu être relogés. La ville n'était pas obligée, puisqu'il s'agit d'une copropriété privée, et de reloger tout le monde dans du logement social. Bon, qu'on dépanne les gens, ça fait partie, ça, des obligations de la ville, on l'a fait, mais on est allé beaucoup plus loin en mobilisant les bailleurs sociaux, et je pense que ça a été une bonne chose. Moi, j'ai œuvré dans cette direction. Ça a été un premier point. Le deuxième point, c'est qu'à partir de là, eh bien, on a lancé, disons, un projet de réhabilitation. Et par conséquent, je pense que les habitants du Petit Bar peuvent avoir l'espoir de voir leur problème résolu. Voilà. En dehors de ce plan de réhabilitation, quand même, je dois dire que la ville, avec Georges Fraîche qui en était le maire, est jusqu'en avril 2004. Montpellier, il y a 63 quartiers dans la ville, 230 000 habitants. Eh bien, le Petit Bar, c'est un des 63 quartiers. Mais si vous regardez les investissements publics, en ce qui concerne les écoles, en ce qui concerne le culturel, en ce qui concerne le sport, sont tout à fait à la hauteur de ce qui se passe dans les autres quartiers. Ça veut dire que ce quartier n'a pas été laissé à l'abandon.
Pour vous, c'est indéniable, vous voulez faire taire toutes les critiques qui pourraient apparaître à l'encontre notamment de Georges Fraîche, qui a été le maire de la ville, je crois, depuis 77.
C'est ça,
les critiques qui disent qu'il a pu avoir des grands projets, c'est même mégalo, dans le centre-ville de Montpellier, mais qu'il a quand même, d'une certaine manière, délaissé la banlieue de Montpellier.
C'est faux et archi faux, et je viens de vous en faire la démonstration. Tout ce qui vient d'être fait, c'est pas Madame Mandreau qui l'a fait, il y a 6 mois qu'elle est là. Mais je ne pourrais pas dire que le problème est réglé. Il sera réglé si chaque partenaire, disons, respecte ses engagements. Moi, en tout cas, s'il en reste qu'un, je serai celui-là tant que j'aurai la confiance des gens du petit bar. La seule chose qui doit nous préoccuper, je vous le dis, c'est le bien-être des habitants du petit bois, du petit bar. Bon, évidemment, la sécurité nous préoccupe. Là aussi, bon, Madame Mandrou a fait un choix et elle joue cette carte. Bon, on verra bien ce que ça donnera.
Béton armé, soleil en berne. Homme des nouvelles cavernes. Voilà ce que nous devenons. Dieu pardonnez-moi si j'en tremble. J'avais rêvé de grands ensembles.
Ensemble est un si joli nom.
Du ciment à l'horizontale, du ciment à la verticale, et puis le vacarme des tubes. Ces grands ensembles sont si rudes que je rêve de solitude comme d'un paradis perdu. Béton armé, soleil en berne, homme des nouvelles cavernes, voilà ce que nous devenons. Si vous n'y mettez pas bon ordre, mon Dieu, la vie si bonne à mort ne méritera plus son nom.
Une chanson des frères Jacques des années 60 qui déplore la marée de béton qui recouvre le pays. C'était un thème de, souvenez-vous de Playtime par exemple, de Tati. On s'inquiétait beaucoup beaucoup de cette transformation de notre pays. Et les frères Jacques, je ne sais pas quel parolier dit « si vous n'y mettez pas bon ordre ». Mais de quel ordre pouvait-il bien s'agir? À quoi pensait-il? On a beaucoup déploré à ces époques-là, mais il faut pas croire non plus que tous les grands ensembles ont été des faillites et des catastrophes humaines, sociales. C'est pas forcément le cas. Il y a des endroits où on a réussi à, en mêlant des populations différentes, à de l'équilibre, à même un art de vivre tout à fait qui a rendu les gens assez heureux. Mais pour d'autres endroits nombreux où il y a encore ces souffrances, il y a ces souffrances sociales, et surtout, encore une fois, j'y insiste, cette indifférence à l'inégalité, à la souffrance évidemment des autres. Alors là, on va dans un autre quartier de Montpellier, le petit bar, c'est connu, c'est le quartier malfamé, un autre quartier immense de Montpellier qui a pas une très très bonne réputation, pas toujours une très très bonne réputation, c'est la Paillade. La Paillade, c'est immense, là aussi des projets de réhabilitation, des audaces politiques ou architecturales, des enthousiasmes qui retombent, etc. Mais il y a au milieu de cette immense cité de la Paillade une tour qui pose problème. Visite.
Mokhtar. Et vous êtes un habitant de la Paillade?
Oui, c'est ça, ouais.
Mais vous habitez pas dans cette tour qui s'appelle la tour catalane, c'est ça?
Tour catalane. La tour, la plus dégradée de la Paillade, auquel il y a des oublis, auquel on parle pas, on parle très peu de cette tour. Elle est cachée. Et c'est une tour qui fait 16 étages, dans l'ascenseur 15, mais plus un étage à pied. Et il y a 80 logements.
De l'extérieur, c'est plutôt propre, c'est une grande tour blanche.
Ça a l'air propre, mais à l'intérieur, c'est insalubre. Mais le bâtiment maintenant appartient aux ACM. Les logements ne sont pas remis en état. Par contre, ils sont fermés. À chaque fois qu'il y en a un qui sort du logement, l'appartement est fermé.
Et condamné. Hein.
Et condamné complètement. Et il y en a qui cherchent des logements sur la paille, ils n'arrivent pas à en trouver. Mais là, ils veulent ni rénover, ni donner de logement. Et les gens qui vivent dedans sont très mécontents des problèmes qui sont actuels. C'est-à-dire fuite de gaz, fuite d'eau, problème d'incendie. Il y a eu plusieurs incendies cette année, dont un mort. Et personne ne s'en occupe. Et la mairie, l'OPAC, les bailleurs sociaux laissent passer tout ça.
On va peut-être entrer dans cet immeuble et puis essayer de parler alors à des gens de là-bas.
Il est midi,
il n'y
a personne.
Donc là, on est dans la tour catalane, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, le premier problème, j'ai pas de la fenêtre.
Vous n'avez pas de fenêtre?
Oui, elle est là dans la chambre, elle n'est pas.
Des années, il n'y en a pas.
Mais ça, c'est des fenêtres.
La fenêtre, il y a juste que les boulets.
Ah, il n'y a pas de vitres. Il n'y a pas de vitres.
Pas de vitres. Pas de cadre, il n'y a pas de vitres.
Et ça, vous avez demandé à ce qu'on remplace les carreaux.
Ça fait des années. Regarde l'humidité partout.
Vous faites comment en hiver, alors?
Regarde la douche comment elle est. Parce que... la première fois, excusez-moi. Ici, la douche... il est cassé en bas, l'eau est sort. Je demandais à l'agence, il m'a fait les tuyaux comme ça, mais les tuyaux comme ça, c'est dangereux pour les enfants et pour mon fils. Parce que s'il y a l'eau chaude, ça brûle comme ça.
Donc en fait, les tuyaux de la douche sont apparents et vous avez demandé à ce qu'ils soient recouverts.
Je demandais à l'agence, je demandais Rémo, je demandais l'opaque, mais personne ne vient, il fait ça.
Qu'est-ce qu'on vous répond là-bas?
Il vient du fait, c'est rien fait pour nous, les gens comme ça. Je suis toute seule, je suis RMI, c'est très cher.
Là, c'est quoi, un F3, F2?
Non, c'est un F2.
F2. Et vous habitez à combien dedans?
7. Parce que ma fille, son mari, les enfants.
Et dites-moi, là, vous avez des pancartes dans votre salon?
Ça, c'est pour la manifestation de...
Qu'est-ce que vous avez demandé à la manifestation de ce week-end?
Je demandais pour le travaux, le bâtiment, pour les choses comme ça. Par exemple, comme chauffage, le gaz, parce que l'électricité, c'est cher.
On peut voir un peu ce qu'il y a sur les pancartes?
Oui, c'est les prendre là. Je le demandais à une association, je demandais...
Embaucher une concierge pour l'hygiène et la sécurité à la Tour Catalogne. Et là, il y a marqué, nous voulons un chauffage qui fonctionne avant l'hiver.
Ouais.
Encore d'autres. Tour Catalogne. Câble électrique sous haute tension, danger de mort.
Ouais.
C'est vous qui avez écrit tout ça?
J'ai crié. J'ai demandé les gens, j'ai demandé les associations, j'ai demandé à tout le monde et s'en fout. Hein.
Et qui a écrit ces pancartes?
C'est une association.
D'accord, une association de quartier. Ouais. Vous avez entendu ce qui s'est passé au petit bar?
Oui, j'ai entendu, mais le petit bar, c'est pas grand chose. Nous, la première, ça fait deux fois, trois fois de feu. Tu vas monter, tu regardes, je te monte avec toi.
Le petit bar?
Voilà, on n'emmène pas large dans cet ascenseur. On n'emmène pas large et pourtant, voilà, c'est aujourd'hui, c'est à Montpellier. Montpellier, ville prospère, ville dynamique, ville où il fait bon vivre. Pas partout, pas partout.
Vous appelez monsieur?
Mikhtar, M-I-K-T-A-R.
Donc on était dans l'ascenseur de l'immeuble de la Tour Catalane, hein?
C'est ça, oui. C'est au 15e étage, c'est l'arrêt. C'est le dernier arrêt de l'ascenseur. Mais je vais faire visiter la machinerie ouverte depuis 3 mois.
Et vous habitez à quel étage?
Au 16e étage.
Donc dans la machinerie?
Presque. Presque à côté de la machinerie. Tout est passé ça. Rassurant. Vous voyez, vous voyez. La machinerie ouverte.
Qu'est-ce que c'est la machinerie?
C'est les machines qui font fonctionner le moteur de l'ascenseur.
Vous avez mis un cadenas.
Voilà, un cadenas quoi le soir. Et si par malheur avant, vous avez vu les fils qui fondent, et ça fait des années depuis la Coupe du Monde.
En fait, le fil repose sur le néon, et si le fil glisse, il peut tout à fait brûler avec la chaleur du néon.
Il brûle, il prend le feu et va partir jusqu'au gaz. Là, on a le gaz. J'espère qu'ils l'ont fermé. Soi-disant fermé.
Et il y a quoi dedans?
C'est un ancien appartement qui ne devrait pas être habité. Et là, ils l'ont tollé. Mais le pire, c'est que les compteurs là-bas, ils ne sont pas plombés. Ils marchent toujours. Il y a des trous de chapeau que l'agence a enlevé sont en soin de fermer avec des bouchons. Parce que si quelqu'un peut ouvrir facilement le robinet de gaz, ça va venir ici et ça va faire une bombe. Je vous le dis, je ne dors pas. J'arrive pas à respirer.
Ça sent le gaz. Hein.
Ouais. Vous l'avez, vous l'avez senti, même il y a des pigeons. Ouais. Il y a des pigeons morts.
Des pigeons morts.
Ouais.
Et vous, vous avez demandé à être logé ?
Ah oui, ça fait 10 ans que j'ai, si vous voulez voir mes factures et mes demandes, avec mon numéro, ça fait presque 10 ans que je demande. Chaque année, je suis toujours là. Là, je suis à 89 ans. 89 ans.
Depuis donc 15 ans.
Voilà.
C'est la première fois que vous êtes venu habiter dans cette tour.
Cette tour, voilà.
Donc au début, c'était encore agréable d'y habiter.
Ah oui, c'était un rêve pour moi de... J'étais, par exemple, par rapport à d'autres, j'étais privilégié, quoi.
Et vous veniez d'où pour que ce soit un rêve ?
Du Maroc.
D'accord.
Voilà. Le dernier feu, c'était un an. C'était un an et même pas. Parce que c'était à l'époque où le CIGER est devenu ACM. L'ACM a acheté la tour.
L'ACM, c'est quoi ? C'est
ACM, les HLM, les HLM, c'est l'OPAC.
D'accord.
Et le jeune de 4 ans qui est mort, de quatrième étage, c'est ça, le quatrième ou sixième étage. Il est descendu le pauvre jusqu'en bas. Il est mort. Et un suicide, où ça fait presque 3 ans, 2 ans, comme ça. Dans cette période, il n'y a que des drames.
Ça fait le 15 drames maintenant, à peu près. Comme ça, un an. À 3h du matin, il y a les gens qui me disent que mon frère, le feu, il a ravagé tout le studio. Elle était brûlée de 3e degré. Après, ils ont ramené à l'hôpital. Elle restait 3 mois. Elle restait plus 15 jours. Après, c'est décédé. Mais normalement, c'était un homme heureux qui. Il est allé au Maroc pour se marier. Il s'est fiancé, tout ça. Et c'est un homme travailleur. Il travaille. Un homme qui va se suicider. Il ne travaille pas, alors. C'est un homme qui a des problèmes. C'est un homme comblé. Il va se suicider. Des conneries, non. Les gens, ils racontent n'importe quoi.
Et vous pensez que c'est quoi ? Il y a eu un court-circuit ou quelque chose avec le gaz ?
Ça fait longtemps qu'ils me disent qu'ils sentent le gaz. Il est allé pour avertir CIGER, il a dit, oui, on va voir ça. Ils ne sont pas venus. Jamais le gaz était contrôlé. Pour lui, jamais.
C'est qui, ça ?
Bonjour.
Ça, c'est un voisin à moi. C'est vous.
Bonjour. Est-ce que ce qui s'est passé au petit bar, la mobilisation, le fait que le secrétaire d'État, le ministre soit venu, est-ce que tout ça, ça vous donne peut-être un peu plus d'espoir pour ici ? Est-ce que ça vous a remobilisé ?
Nous, on a des morts avant eux. Nous, ce monsieur de 15e étage, il est mort avec les fuites de gaz. Je parle sérieusement, parce qu'on a posé plainte pour les fuites de gaz, et monsieur, il est mort avec les fuites de gaz, il le passe pour quelqu'un de suicidaire. L'assurance me dit, je paye pas les dégâts de votre appartement tant que monsieur, il a suicidé. Je paye pas ce donc que vous me demandez, puisque monsieur, qui, en question, est mort suicidé.
On comme a, ça, l'assurance voilà. Ne couvre pas.
Voilà. Mais, le problème de Pibar a donné un peu de, comment dirais-je, à l'opinion publique, quelque chose qui a poussé M. le ministre de venir. Parce qu'il y a plusieurs morts, c'est ça ? Ici, on n'a qu'un mort, ça compte pas. Je sais pas si...
Il y a eu un mort, un petit peu.
Je sais pas, ouais. Mais ici, eux, là-bas, ils disent qu'il y a plusieurs appartements qui sont pris feu. Voilà. D'accord, mais là, il n'y a qu'un seul. C'est ça le problème. Notre combat, c'est quoi ? C'est écrit noir sur blanc, c'est... On veut une maison qui soit digne de la France, pas une poubelle. Prends la ligne.
Pour vous, toutes ces affaires montrent quoi finalement ?
Ça montre que la gestion des populations sur des bases communautaires, sur des bases ethniques, ou tout simplement sur d'autres bases, c'est-à-dire que à part le fait que ce soit principalement des Marocains et des Gitans qui en ont bavé au petit bar, les habitants du petit bar sont des pauvres, sont des ouvriers, ou aujourd'hui des ouvriers qui sont au chômage, qui ont été mis dans des ghettos, et dans ces ghettos, il y a des gens qui sont remplis des poches, des marchands de sommeil, des pouvoirs publics qui ont profité des situations précaires des gens pour toucher des charges énormes, parce que pourquoi les gens acceptaient de payer des charges énormes dans un quartier complètement délabré comme celui-là?
Parce qu'ils n'avaient pas le choix.
D'une part parce que ils ne pouvaient pas trouver où habiter ailleurs. On ne leur donnait pas, on ne leur louait pas ailleurs. C'est-à-dire quand on est marocain ouvrier à Montpellier, on vous place dans un certain nombre de quartiers d'office et vous êtes sûr de ne pas pouvoir en sortir parce que vous ne trouverez jamais ailleurs, on ne vous louera jamais ailleurs. Pour les habitants du Petit Bar, si vous parlez avec eux, ils vous disent que il y a assignation à résidence au Petit Bar. Il y a des gens qui demandent des changements de résidence aux différents offices HLM depuis 22 ans. D'abord donc, ils n'ont pas le choix. Et d'autre part, c'est des gens qui ont peur. C'est des gens auxquels on fait peur depuis longtemps, auxquels on fait sentir que ce sont des populations pas comme les autres, que on les accepte, que c'est une faveur qu'on leur fait de les accepter déjà sur le territoire, que on peut leur faire tout type de chantage, parce que souvent dans une famille, il peut y avoir un cousin qui demande une carte de séjour, et donc sur lesquels on peut faire des pressions très très fortes. Donc les gens payent, parce que souvent ce sont des petits vieux immigrés, ouvriers, qui viennent travailler en France et qui ne connaissent pas les méandres de la loi ou les méandres du droit bancaire, etc. Voilà.
Merci Meya Sédic, merci aux habitants du Petit Bar et de la Tour Catalogne à Montpellier. C'était un reportage d'Olivia Gesbert, l'équipe de la Bassigie Suisse, et Yann Chouquet, Christophe Imbert, Pascal Le Pascariello et Antoine Chao. Technique aujourd'hui Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Dimanche, concert 7 novembre, concert à Montpellier avec les Faucheurs volontaires, pour les Faucheurs volontaires, et samedi 7 novembre à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France, notamment à Toulouse aussi, manifestation du MRAP et de la LDH contre le racisme. On se retrouve nous demain, lundi, dimanche on sera à Montpellier. Lundi à 17h pour là-bas, si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Dans un instant, vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari, mais auparavant, un petit peu de réclame.